Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez L'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et aujourd'hui au sommaire, l'info du jour, prise de position du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Bretagne, dans le contexte électoral que vous connaissez. Deux interviews avec Christian Lebar, professeur en sciences politiques, pour un peu de recul justement sur cette situation politique inédite. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, puis un second échange pour annoncer un temps fort du 5e printemps de l'éco-construction ce week-end. Et puis deux recommandations pour terminer. Conquête spatiale et archéologie. Bienvenue dans l'arène. Vous le savez, l'émission d'information locale, elle débute toujours avec une info du jour que je sélectionne dans la presse locale. Aujourd'hui, alors bon, il y a les Républicains d'Ille-et-Vilaine vent debout contre la décision du président de parti Éric Ciotti de se rapprocher du Rassemblement national. La maire de Vitré, Isabelle Le Callennec, désormais députée européenne, considère son parti comme le dernier rempart au Rassemblement national. Dernier rempart ou dernière marche de l'échelle ? Ça, c'est mon questionnement. Bref, aujourd'hui, je relaie plutôt la prise de parole des associations de jeunesse et d'éducation populaire de la région. Le CRAJEP Bretagne réunit une trentaine de structures. Parmi elles, on trouve ATD Carmonde, Aroeven, qu'on a déjà reçu pour parler de ses formations BAFA et de ses colos, mais aussi la Fédération des centres sociaux de Bretagne ou encore le Secours Populaire. Ensemble, ils réagissent à la dissolution de l'Assemblée nationale dans un contexte de poussée de l'extrême droite, y compris en Bretagne. Et face à ce constat, ils rappellent, je cite, « l'urgence d'une réaction forte tournée vers un avenir démocratique et humaniste ». Et de poursuivre, l'extrême droite est un véritable danger pour le vivre ensemble et la démocratie. L'histoire nous l'a démontré dans le monde. Notre liberté, notre égalité, notre fraternité, nos principes de laïcité sont remis en question à travers ces idées. Fin de citation. Le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire de Bretagne souhaite donc maintenant lancer des échanges sur les positions de l'extrême droite et de ses conséquences. Il est indispensable de débattre, à les entendre. Ce sont les mots martelés dans leur communiqué. Débattre, inciter à aller voter les 30 juin et 7 juillet prochain, mais aussi demander aux forces politiques progressistes de prendre leurs responsabilités et de proposer une réaction claire, collective et co-construite avec l'ensemble des Bretons et des Bretonnes pour une réelle alternative politique. Allez, après cette info du jour, on passe à une première interview. Christian Lebar, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Christian. On précise qu'on s'est déjà croisé pas mal de fois sur cette antenne puisque vous animiez jusqu'à assez récemment une émission qui s'appelle Chercheurs en ville, qui est consacrée à la recherche universitaire. Vous êtes professeur de sciences politiques et parmi vos domaines d'expertise, on trouve la vie politique ou encore les discours et symboliques politiques, également les mouvements sociaux. Donc c'était intéressant de vous avoir, histoire d'essayer de prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre de façon très intense cette semaine. On imagine que pour un chercheur comme vous, déjà pour commencer, vous devez être en train de passer pas mal de temps devant les chaînes d'infos, peut-être en ce moment.
Bah, j'aimerais bien, oui. L'année universitaire est malheureusement pas complètement terminée, donc. Mais oui, il se passe des choses assez inédites. On pourrait dire assez passionnantes si on observait la vie des insectes et voilà, si les enjeux n'étaient pas aussi lourds, hein, pour les citoyens que nous sommes aussi en tant que chercheurs. Mais c'est vrai que il y a toute une série de choses à penser qui nous laissent un peu pantois, à commencer bien sûr par les motifs qui permettraient d'expliquer cette dissolution.
Alors on va commencer par le point de départ, à savoir les résultats des élections européennes qui ont été annoncées dimanche 9 juin. Peu de surprises en fait par rapport aux chiffres qui avaient été annoncés par les sondages tout au long de la campagne électorale. Peut-être qu'ils jouent un rôle finalement ces sondages sur des dynamiques, en tout cas de votes utiles, qui se sont peut-être redéployés vers les listes les mieux placées. On a des éléments là-dessus?
Alors la notion de vote utile, elle a pas beaucoup de sens pour les élections européennes, puisque je rappelle que voter utile, c'est quand on hésite entre deux offres électorales, entre deux listes ou entre deux candidats, se poser la question de faire en sorte que sa voix ne soit pas perdue. Par exemple, voter pour à une élection présidentielle pour un candidat dont on sait qu'il n'a aucune chance d'être au deuxième tour, ça peut être un peu dissuasif, alors que si on a un candidat qu'on aime moins mais qui a une bonne chance d'être au deuxième tour, on va voter utile pour être parmi les gens qui vont vraiment faire la décision. Alors, pour les élections européennes, le raisonnement ne vaut pas vraiment, sauf pour les listes qui doivent atteindre le plafond des 5% pour être représentées, mais au-delà des 5%, toutes les listes se valent d'une certaine façon, puisque toutes les voix sont comptées pour donner des représentants. Donc, en dehors de cette hypothèse un peu marginale, la notion de vote utile ne joue pas. Par exemple, elle ne joue pas pour le Rassemblement national, ni pour Glucksmann, ni pour les grandes listes.
Le résultat principal de ces élections, évidemment le score atteint par le Rassemblement national, mais le premier parti de France, en fait, c'est plutôt l'abstention. C'est un peu mieux qu'aux dernières élections européennes. On semble même s'en satisfaire, notamment sur certains médias, en rappelant que c'est un taux de participation d'abstention qui est au plus bas depuis 30 ans. Pourtant, 48,6% d'électeurs qui ne participent pas à une élection, ça dit quand même quelque chose, non ? D'une défiance envers les élus, notre système politique.
Oui, ça, évidemment, il y a la barre des 50% de participation qui est assez symbolique. Il y a plus de citoyens inscrits sur les listes électorales à s'être déplacés qu'il n'y en a eu à ne pas s'être déplacés. Donc on peut effectivement voir la bouteille plutôt à moitié pleine. Mais oui, fondamentalement, ça reste quand même un score de participation très problématique en démocratie, auquel malheureusement on s'est un petit peu habitué pour des raisons conjoncturelles. C'est-à-dire que la participation baisse très sensiblement depuis 25 ans. Et puis aussi parce qu'on a affaire à une élection, alors dont on a longtemps dit qu'elle n'était pas perçue par les électeurs comme centrale ou essentielle, ce qui pourrait être relativisé. Alors c'est vrai que le scrutin proportionnel plus l'échelle européenne dilue un peu les voix individuelles, mais en même temps, on a aussi appris, et tout particulièrement ces derniers mois, à quel point la vie quotidienne, par exemple des agriculteurs, pouvait dépendre de la politique agricole commune, donc à quel point sur les questions d'environnement, sur les questions agricoles, etc., à quel point les décisions européennes pouvaient peser sur nos vies quotidiennes. Donc c'est un peu ambigu.
Le premier parti, ensuite, après celui de l'abstention, à arriver en tête, c'est donc celui du Rassemblement National, porté par la personnalité de Jordan Bardella, avec plus de 30% des suffrages récoltés. Est-ce qu'on a des éléments pour comprendre, l'abstention qu'on vient d'évoquer, et puis surtout, ce vote Rassemblement National qui, alors, on voit de la surprise sur certains plateaux télé, il s'installe quand même depuis plus de 20 ans dans le paysage comme un acteur devenu assez normal, finalement, dans la scène politique ?
Oui, ce qui est très fascinant à observer, c'est les jeux de glissement successifs. Depuis le coup de massue de 2002 avec Jean-Marie Le Pen présent au second tour d'une élection présidentielle et du coup, des millions de Français dans la rue, etc. Et puis, petit à petit, alors certes, le Rassemblement National de Marine Le Pen n'est pas le Front National de Jean-Marie, mais de la banalisation, de la dédiabolisation du côté du parti et puis du côté des électeurs, une habitude prise de voter d'abord pour des scrutins un peu secondaires, des scrutins, ce qu'on appelle les élections intermédiaires, et l'élection européenne a toujours, de ce point de vue-là, été un scrutin un peu défouloir pour l'extrême droite ou en faveur de l'extrême droite. Et puis, là, on arrive quand même... Alors même, vous l'avez dit, que tous les sondages annonçaient ce résultat-là. Donc, c'est pas une surprise, mais on se réveille quand même en disant, mais on est en train de constater que non seulement c'est le premier parti de France, non seulement il est en tête, mais il est en tête de très loin. C'est-à-dire, il y a vraiment pas photo, donc on peut pas s'empêcher de dire que, il y a toute une série de réticences à voter Rassemblement National qui ont sauté.
Ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est un vote, le vote pour le RN, qui s'élargit à genre, catégorie socio-professionnelle. Le vote RN se répand partout. C'est un titre signé Libération au lendemain des élections européennes. Dimanche soir, il y a quand même certains territoires qui semblaient faire un peu de résistance face à, on peut dire, une vague bleu marine quand on regarde la carte des résultats de ces élections. Paris, d'abord, si on parle des grandes villes, et puis derrière elle, Rennes, où Glucksmann est arrivé en tête avec la liste PS Place Publique, et le Rassemblement National était sous la barre des 10%. La région Bretagne vit quand même une situation inédite si on se détache de la ville de Rennes.
Oui, c'est vraiment très curieux de voir comment, très intéressant de voir comment la carte du vote d'extrême droite a évolué au fil des décennies. Dans les années 90, on avait quelques isolats. Hein, le vote Front National à l'époque était très très situé, là où les populations immigrées d'origine maghrébine et africaine étaient les plus importantes, là où la désindustrialisation, etc., etc. Puis il y avait des territoires où le Front National était quasiment absent et la Bretagne en faisait partie. Et on voit comment petit à petit il a progressé, scrutin après scrutin, et puis cet élargissement en tache d'huile en quelque sorte à l'ensemble de territoires, c'est aussi un élargissement d'un groupe social à l'autre, c'est-à-dire c'était un électorat âgé, souvent très, avec des caractéristiques particulières. Bon, bah, on sait qu'il y a maintenant un fort vote Rassemblement National chez les jeunes. On sait que la Bretagne, qui a longtemps été une terre de résistance à l'extrême droite, a cessé de l'être, que les régions rurales catholiques ne votaient pas beaucoup Rassemblement National, ça n'est plus vrai, enfin, etc. Donc l'exception s'est renversée. C'est-à-dire, maintenant, on regarde la singularité des territoires qui ne votent pas Rassemblement National. Rennes en fait partie, Paris en fait partie, mais voilà, pour des raisons qui tiennent à la sociologie de la ville. Mais dès qu'on est sur des territoires autres, disons, plus populaires, moins bobos, pour dire les choses un peu brutalement, le vote Rassemblement National augmente, voire explose.
Comment est-ce qu'on l'explique? Alors ça pourrait prendre des heures, mais ce glissement à droite qu'on observe à l'échelle nationale, mais y compris ailleurs sur le territoire européen, voire mondial, c'est quoi? C'est à raccrocher aux politiques néolibérales menées depuis l'après-guerre? Quelle est la source?
La question est redoutable parce qu'effectivement, elle obligerait à tenter d'y répondre. Ce serait à embrasser un peu toute une série d'évolutions macro très 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 fondamentales. Mais il est évident que l'augmentation des prix ces derniers mois, donc la précarité croissante pour un grand nombre de Français, a généré des inquiétudes rationnelles et d'autres qui le sont moins. Le déchaînement des discours hostiles aux migrants, le déchaînement des discours absolument centrés sur l'insécurité aussi. Enfin bon, il y a des chaînes d'information continues qui ne parlent que d'insécurité du matin au soir et qui ont une audience absolument considérable en faisant systématiquement leur une là-dessus, comme si la France était à feu et à sang. Tout ça crée un climat de très grande inquiétude, voilà, pour des raisons qui tiennent à la fois aux évolutions objectives de la société française, voire du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, mais avec une dimension subjective aussi, avec des craintes qui sont pour partie fondées, pour partie parfois un peu fantasmées.
Alors, plutôt que les résultats du Rassemblement National dimanche dernier, la vraie surprise a plutôt été le moment de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été annoncée dans la foulée par le président de la République Emmanuel Macron. Il semble avoir pris de court son propre parti. L'idée semble être la suivante, une forme de coup de poker avec une arrivée possible du Rassemblement National au gouvernement d'ici quelques semaines pour donc 3 ans de cohabitation d'ici les prochaines élections présidentielles. Histoire peut-être de mettre en lumière une incapacité à gouverner, ça fait partie des hypothèses, c'est un raisonnement plausible?
Alors, c'est un raisonnement que, effectivement, certains font. Ils le font parce qu'il y a quand même un désarroi collectif, je le disais pour ouvrir cet échange, un grand désarroi au moment d'interpréter cette dissolution. Et moi, dont le métier consiste à essayer de comprendre la vie politique et d'essayer de déconstruire les stratégies des professionnels de la politique, je peux vous dire que je ne comprends pas du tout cette dissolution, que je ne l'ai pas du tout vu venir et dont les arrière-pensées stratégiques me semblent toujours très brumeuses. Alors, effectivement, parmi les explications possibles, il y a celle-là, c'est-à-dire lever l'hypothèque Front National, Rassemblement National, pardon, lui confier les clés et permettre à tous les Français de constater que c'est la catastrophe. Alors, sur le papier, why not? Sauf que, en réalité, ça marche jamais comme ça. Il n'y a qu'à observer ce qui se passe au niveau local. C'est-à-dire quand le Front National a conquis des municipalités en 95, on a dit, les gens vont voir. Hein, ils vont voir. Alors, effectivement, dans certaines villes, ça a marché. Ils ont vu, parfois, c'est-à-dire il y a des villes qui ont été très, très mal gérées, ça a été la catastrophe, et le Front National n'a fait qu'un mandat, et au revoir. Bon, et les gens ont été vaccinés. Mais force est de reconnaître que le Front National, entre-temps, s'est professionnalisé, a su rallier à lui des cadres, des experts, des gens tout à fait, d'excellents technocrates qui savent faire marcher l'appareil décisionnel, qui savent gérer une collectivité. Et donc, ça n'est plus le parti amateur que c'était du temps de Jean-Marie Le Pen. Donc, on va avoir des gens très professionnels au pouvoir. Alors, la pédagogie par l'effondrement, j'y crois pas beaucoup. Et puis, il y a aussi les exemples internationaux. Trump a été président. Il a perdu, certes, mais je voudrais être certain que ses chances de revenir au pouvoir sont nulles. Et tout nous indique, au contraire, que ses chances sont réelles. Donc, ça veut dire que, malheureusement, le basculement à l'extrême droite, c'est aussi une acclimatation des esprits, c'est aussi le langage qui diffuse, les catégories de pensée qui évoluent, des jeunes générations qui finissent par trouver normal et ordinaire ce que la précédente trouvait problématique, etc. Donc il y a un risque d'acclimatation, et donc je ne crois pas à la pédagogie par l'échec.
Bon, ce qui nous attend là, ce sont très bientôt des élections législatives qui donc se préparent dans la précipitation, tout ça à la veille des Jeux Olympiques au passage, et puis avec une mise à l'arrêt de plusieurs gros projets de loi, notamment celui sur la fin de vie. On va donc bientôt retourner voter pour élire nos 577 députés. Est-ce que la dynamique est la même que sur les élections européennes? Est-ce qu'on peut calquer un peu les suffrages qu'on a observés sur ce qui va se passer dans 3 semaines? En tout cas, les taux d'abstention sont à peu près les mêmes sur les dernières élections législatives.
C'est là où peut-être il faut quand même garder la tête froide, c'est-à-dire de transposer mécaniquement la performance du Rassemblement National aux législatives, c'est une erreur assez grossière qu'il faut pas commettre. Parce que pour les élections législatives, il y a des sortants. Voilà, il y a des sortants. C'est un scrutin localisé, territorialisé à l'échelle des circonscriptions. Et puis il y a des alliances. Alors évidemment, le coup de force de Macron, et sur quoi d'ailleurs ça me semble vraiment très très problématique d'un point de vue démocratique, c'est pas la dissolution qui pose un problème du point de vue de la démocratie, c'est le calendrier, l'urgence dans laquelle il place tous les acteurs politiques, par exemple, rend très problématique la mécanique des alliances, dont on sait qu'elle est inscrite dans la logique du scrutin majoritaire. Hein. La logique du scrutin majoritaire, c'est d'encourager la fabrication des alliances, la recherche du consensus, etc. Donc ça va se faire dans l'extrême urgence et de façon très, très chaotique et très bricolée, ça fait aucun doute. Est-ce qu'on va reconduire la NUPES, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir des ralliements à droite? Enfin bon, tout ça va être très, très chaotique. Et c'est de cette offre-là que dépendront les résultats. Alors, il faut s'attendre évidemment à un score élevé du Rassemblement National, mais tout dépend qui il aura en face de lui, parce que, hypothèse d'un front républicain, hypothèse d'un front populaire, hypothèse, etc., des ralliements dans tous les sens, l'offre n'est pas encore clarifiée. Et pour le scrutin majoritaire, la structuration de l'offre détermine les vainqueurs et les vaincus. Si le Rassemblement National a face à lui des partis en ordre dispersé comme aux européennes, il l'emportera et il gouvernera. Il conquérera Matignon, ça fait aucun doute, il y aura cohabitation. Mais c'est pas certain du tout, on n'en est pas de là quand même.
En attendant d'y voir plus clair, ce qui est quand même assez fascinant, c'est là d'assister à une redéfinition du paysage politique en temps réel, avec les Républicains qui finalement sont en train de se diviser entre le Rassemblement National ou pourquoi pas rejoindre la majorité présidentielle. Majorité qui, avec Renaissance, continue à tenter le « en même temps » en appelant le Parti Socialiste et les Républicains à les rejoindre. Et puis la gauche qui tente encore une fois l'union malgré des divergences très importantes. Est-ce qu'au final, on peut dire que le bilan de la présidence d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est d'avoir eu au final une extrême droite renforcée, mais toujours ce clivage gauche-droite qui s'est juste remodelé?
Je pense qu'il y a dans l'ADN du macronisme l'idée que on gagne toujours quand on est face à l'extrême droite, voilà, et que le meilleur moyen de gagner, c'est de construire une configuration nous contre l'extrême droite. Et à ce moment-là, on est sûr de gagner parce qu'il y a des ralliements liés aux réticences que suscite l'extrême droite. Alors ça a marché deux fois. Est-ce que ça marchera aux législatives? Je suis pas sûr, parce qu'il me semble que la capacité à réunir autour du macronisme est quand même bien abîmée, ne serait-ce que parce que l'acteur Macron lui-même est en bout de course, hein, puisqu'il est en fin de dernier mandat. Donc la capacité à fédérer autour du bilan du macronisme, qui est quand même très contesté, ou d'un projet macroniste qui est très hypothétique, cette capacité à rassembler, elle est fragile. Bon, donc les alternatives vont elles-mêmes être au Rassemblement national, vont être côté Macron très fragiles. Voilà. Donc on risque d'avoir un jeu à trois avec un bloc central macroniste, avec une extrême droite, et puis avec une gauche qui pourrait reprendre le périmètre NUPES, mais ce sera très problématique, et je ne suis pas sûr que les électeurs suivent comme ils ont suivi aux dernières législatives, ou avec un bloc qui irait de Ruffin à Glucksmann et qui laisserait LFI de côté. Mais dans ce cas-là, les perspectives d'être majoritaires deviennent très, très compliquées.
Nous observerons tout ça dans les semaines à venir. On en rediscutera sûrement dans l'émission d'information locale de Canal B. Christian Lebar, je le redis, vous êtes professeur de sciences politiques à Rennes et comptez parmi vos domaines d'expertise la vie politique et les discours et symboles politiques. Merci beaucoup pour cet échange.
Merci à vous.
La Loose avec le morceau Strange World sur Canal B. C'était une nouveauté musicale présélectionnée par notre programmateur Yann Barbotin, à retrouver sur un album qui s'appelle News of the Universe. C'est sorti le 24 mai dernier chez Sub Pop. Le titre, il est tiré d'un recueil de poésie métaphysique, mais aussi d'une prise de conscience personnelle de la guitariste et compositrice Shanna Cleveland, qui apprend avec ce disque à embrasser un monde changeant. Tout ça en 11 titres musicaux qui forment le 5e album pour ce groupe de rock californien. Vous venez d'en entendre un extrait de cet album dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, une radio qui fête ses 40 ans cette année. Je vous dis rapidement un mot sur deux des nombreuses propositions qu'on organise pour fêter cet anniversaire. Une bière d'abord qui vient d'être brassée par la brasserie Britannise à Montreuil-sur-Isle et qui est en précommande. Vous retrouverez le détail sur notre site internet canalb.fr. Et puis cette braderie culturelle qui va bientôt arriver, organisée dimanche 23 juin du côté de la capitainerie des petits bateaux, toujours à Rennes. Et donc tout l'après-midi, on vous prévoit des émissions radio au bord de l'eau, également une braderie culturelle animée par les bénévoles et les salariés. Et je crois qu'il y a un tournoi de pétanque, il est encore temps de s'inscrire. Le détail est là aussi à retrouver en ligne, on espère vous y voir nombreux. On poursuit l'émission avec une seconde interview maintenant. Elisabeth Ribeiro et Johan Bois, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Elisabeth, vous êtes responsable du pôle grand public à l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat en Pays de Rennes. Johan, vous êtes le coprésident de la Fédération bretonne des filières biosourcées. Ensemble, on va annoncer un des derniers événements du 5e printemps de l'éco-construction, dont le temps fort a lieu, le temps fort en tout cas ouvert au grand public, a lieu le week-end prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas vos structures, on fait rapidement un petit tour de table. D'abord avec cette Fédération bretonne des filières biosourcées qui pilote l'événement qu'on annonce. Comment est-ce qu'on peut peut-être décrire vos équipes et puis les missions que vous menez sur le territoire ?
Alors la Fédération bretonne des filières biosourcées existe depuis 2019. C'est une association qui rassemble l'ensemble des filières des matériaux naturels pour la construction.
Ça veut dire paille, on pense paille, on pense terre.
On pense terre, on pense chanvre, on pense lin, on pense chaume, on pense aussi les matériaux issus du recyclage comme la ouate de cellulose, le papier journal. On pense évidemment le bois, mais je crois qu'on l'a déjà dit, et le textile recyclé aussi, où à partir de jeans on fabrique des isolants pour le bâtiment. Nous, notre leitmotiv, c'est évidemment le respect de l'environnement avec ces matériaux-là, mais c'est aussi le confort des usagers dans les différents bâtiments. On parle beaucoup du confort d'été et puis de la performance énergétique. Comment est-ce qu'on amène des matériaux qui sont naturels, mais qui permettent aussi de baisser la facture d'électricité. On est tous impactés par ça en ce moment. Et le tout dans un souci de santé de la planète, évidemment, mais aussi de la santé des gens qui mettent en œuvre ces matériaux-là et qui vivent à l'intérieur des bâtiments.
Vous êtes combien aujourd'hui dans les équipes ? J'imagine des entreprises, peut-être des indépendants aussi.
Alors on a aujourd'hui la fédération, elle rassemble 8 filières. Donc c'est bien une interfilière, c'est un rassemblement de filières. Les filières, elles rassemblent peu ou prou 700 structures aujourd'hui sur l'ensemble du territoire breton. On a aussi nos homologues en Pays de la Loire qui s'appellent Collectif Biosourcé Pays de la Loire. On est la première association au niveau national à avoir fonctionné comme ça avec les associations professionnelles du bâtiment écologique, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on fait des émules un peu dans toutes les régions, donc ça permet aussi de lancer une dynamique pour la transition du secteur du bâtiment.
Autre association, c'en est une, hein, l'ALEC.
Tout à fait.
L'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes. On vous a déjà reçu à plusieurs reprises dans cette émission pour annoncer différents événements que vous organisez régulièrement auprès du grand public. Une association donc également engagée dans la transition écologique, on dit un peu de quelle façon ?
Alors engagé dans la transition écologique et la transition énergétique, on va accompagner du coup à notre niveau à la fois les ménages, les collectivités et les entreprises sur le pays de Rennes à aller vers plus de sobriété. Donc ça va passer par à la fois de l'accompagnement technique, mais aussi beaucoup de sensibilisation et d'animation.
De l'aide aussi pour l'accès aux aides pour rénover son bâtiment.
Également, nous sommes donc Espace France Rénove pour le territoire de Rennes Métropole et l'Ifré-Cormier Communauté. Et donc pour cela, on accompagne et techniquement et également en renseignant sur les aides financières que les ménages peuvent solliciter pour leur projet de rénovation énergétique.
Vous êtes installé boulevard Clémenceau à Rennes. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans les équipes? Si c'est une association, il y a peut-être aussi des bénévoles qui interviennent ou c'est essentiellement des salariés?
Alors, c'est essentiellement des salariés. Et en fait, nous sommes une association de collectivité. Donc, nous sommes 30 salariés aujourd'hui au sein de l'ALEC sur différentes thématiques allant de la rénovation énergétique, la construction neuve avec l'accompagnement de ZAC et également tout ce qui va être énergie renouvelable citoyenne. Et aussi mobilité.
Vous avez cité les ZAC, donc les zones d'aménagement concertées. On va maintenant donc annoncer ensemble cette 5e édition du printemps de l'éco-construction. Ça a commencé début mai pour se terminer le week-end prochain. Il faut d'abord s'entendre sur les termes employés. Donc on a parlé de l'éco-construction qui implique ces filières dites biosourcées. Aujourd'hui, quel espace occupent ces filières dans l'ensemble des constructions, mais aussi des rénovations en Bretagne et en France? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui se déroule un peu à la marge ou qui prend de plus en plus de place?
Alors ça a été pendant longtemps à la marge et aujourd'hui c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant. Il y a quelques années, les parts de marché au niveau national, elles étaient autour de 4% et en 2 ans, on est passé de 4 à 10%. Donc on a une croissance assez phénoménale du volume de matériaux dits biosourcés qui est mis en œuvre dans le bâtiment. En sachant que c'est des matériaux qui apportent des réponses très logiques, en particulier sur la rénovation du bâti ancien, où c'est les seuls matériaux qui sont aujourd'hui adaptés à la rénovation de ce type de bâtiment. Donc si vous avez des maisons en pierre, des maisons en terre, des maisons en bois, des maisons en pan de bois, des immeubles en pan de bois, comme dans le centre ancien de Rennes, il n'y a aujourd'hui que les matériaux biosourcés qui sont adaptés à ces techniques-là.
Et puis il s'agit quand même d'un enjeu majeur lorsqu'on sait qu'aujourd'hui le bâtiment représente 25% des émissions de CO2, 40% de la consommation énergétique. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour accélérer le mouvement? On sait, c'est peut-être un peu la même chose dans l'alimentation, mais que construire durable, ça coûte en général plus cher que faire du classique béton. Ou peut-être est-ce une idée reçue?
Alors, sur certains points, ça peut être une idée reçue. Aujourd'hui, on a des isolants qui sont très compétitifs par rapport aux isolants dits conventionnels. Je vous invite à aller voir le présentoir de matériaux chez Leroy Merlin et vous verrez que la ouate de cellulose est aujourd'hui parfois moins chère que la laine de verre. Elle est moins chère, mais surtout, elle est plus confortable. Confort d'été, matériaux recyclés, elle est produite essentiellement en Bretagne quand on l'achète. Par une entreprise qui fait aussi de l'insertion. Donc utiliser des matériaux biosourcés, c'est aussi donner du sens à ce qu'on fait. Donc vous citiez la quantité de déchets par exemple du bâtiment. C'est des matériaux qui produisent très peu de déchets en sortie. Et puis surtout, c'est des matériaux qui, quand on les évoque et qu'on en parle en fin de vie, sont pour la plupart réutilisables et sinon sont compostables facilement. L'idée, c'est de travailler aujourd'hui avec des matériaux avec un très faible impact à la fabrication, le meilleur impact possible au moment où on utilise les bâtiments et le plus faible impact à la fin quand on détruit le bâtiment.
Bon, on comprend que l'impact est vertueux en faisant appel à ces filières biosourcées. Pour les développer, il faut quoi? Lorsque ça coûte plus cher, un accompagnement des pouvoirs publics et puis des questions aussi au niveau des filières, comment on s'organise pour être plus visible?
Alors nous, effectivement, c'est notre travail au quotidien de gagner en visibilité, de se faire entendre. On travaille aussi avec beaucoup de collectivités. On a aujourd'hui des collectivités sur le territoire breton qui sont engagées, voire très engagées sur l'utilisation massive, on va dire, des matériaux biosourcés. Rennes Métropole a sorti l'année dernière un référentiel dit bas carbone qui nous appuie et qui nous conforte, nous, dans nos positions. On a la métropole de Saint-Brieuc Agglomération qui, aujourd'hui, a fait le pas de côté qui permet aux ménages, et parfois même les ménages les plus modestes, d'être accompagnés, d'avoir des aides pour mettre en œuvre des matériaux biosourcés. On a le département aussi du Finistère qui travaille dans ce sens-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, les aides, elles existent. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les collectivités et les pouvoirs publics pour les dimensionner comme il faut et les flécher vers les matériaux qui soient les plus vertueux. Donc ça, c'est un travail qui est fait au quotidien. Et puis après, de quoi on a besoin pour avancer, pour faire avancer les filières biosourcées? Pendant des années, la question, c'était la question de la sécurisation de la ressource. Est-ce qu'on est sûr d'avoir assez de paille? Est-ce qu'on est sûr d'avoir assez de terre? Est-ce qu'on est sûr d'avoir assez de bois? Je profite de parler du bois pour dire qu'il faut qu'on continue à planter des arbres, parce que les arbres, ça met du temps à pousser, et si on en a besoin pour la construction, il faut qu'on fasse attention à la gestion de notre ressource. Donc c'est important de continuer à planter des arbres et à faire en sorte que ça devienne des arbres qui sont utilisables pour la construction. Pour la terre, on n'a pas de problème, c'est le premier déchet du bâtiment. Et pour la paille, on a des collègues qui ont prouvé depuis 2 ans maintenant qu'il n'y avait pas de concurrence d'usage avec le milieu agricole. Donc il faut bien comprendre qu'on ne vient pas se mettre en concurrence par rapport à des modèles existants, mais en complémentarité, ce qui permet aussi de valoriser les métiers du secteur agricole. On travaille efficacement dans cette logique-là. Maintenant, aujourd'hui, nos besoins, ils sont plutôt tournés vers la formation, comment on accompagne aussi bien les citoyens, mais surtout les professionnels, les décideurs publics, à comprendre les enjeux et à comprendre la technicité de ces nouveaux matériaux, comment est-ce qu'on les met en œuvre pour pas faire de mauvaises choses. Et puis après, les filières, elles ont toujours besoin de soutien à ce qu'on appelle l'innovation. C'est pas des matériaux très innovants, parce que la paille, ça existe depuis très longtemps. La terre crue, ça fait des milliers d'années qu'on construit avec, mais aujourd'hui on doit s'adapter à un cadre réglementaire qui est exigeant, donc on appelle aussi de nos voeux que les collectivités locales et au niveau national on puisse être accompagnés, nous, pour pouvoir développer des solutions à la fois pour le grand public mais aussi pour les équipements publics et le logement collectif.
Alors, pour diffuser votre message et puis vos bonnes pratiques, il y a donc ce 5e printemps de l'éco-construction qui a en fait débuté au mois de mai, mais avec un temps fort ouvert au grand public qui arrive le week-end prochain. Ce sera un peu en clôture de ce printemps de l'éco-construction. Il s'est passé quoi depuis le début du mois de mai? Beaucoup de choses en fait pour les élus, les professionnels.
Oui, alors après la communication et les portes ouvertes étaient ouvertes à tout le monde, hein. Mais c'est vrai que, comme le disait mon collègue tout à l'heure, ça passe aussi par une prise de conscience des professionnels et une formation des professionnels, donc les temps forts et les portes ouvertes étaient surtout dirigés vers le public des techniciens des collectivités et des artisans, justement pour donner à voir des expériences, des retours d'expérience qui fonctionnent et qui fonctionnent extrêmement bien avec du coup des occupants qui peuvent aussi montrer que ce sont des vraies solutions techniques, à la fois abordables quand on réfléchit sur la durée d'exploitation du bâtiment, mais aussi avec un gain de confort qui est assez incroyable dans la vie de tous les jours, à la fois sur le confort d'été, le confort d'hiver, l'acoustique et la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments.
On peut donner un exemple très concret de construction de ce genre peut-être sur le territoire, dans la région rennaise, pour dire à quoi ça ressemble? Est-ce que les habitants ou les constructeurs ont pu présenter là, durant ce printemps de l'éco-construction?
Oui, alors par exemple, il y a eu la visite de l'école de Saint-Jacques-de-la-Lande qui a été du coup rénovée avec une extension en matériaux biosourcés, donc avec une ossature bois, de la paille et de la terre crue. Également en chantier participatif ouvert aux habitants, parce que c'est aussi la force des matériaux biosourcés, c'est de pouvoir être accessible à tout le monde. À partir du moment où la personne est accompagnée, elle peut mettre en œuvre ses matériaux. Et du coup, ce chantier-là est également chauffé au bois. Donc c'est vraiment un projet exemplaire dans sa totalité qu'il était possible de visiter lors de ce printemps de l'éco-construction.
Un printemps de l'éco-construction qui va donc se terminer ce week-end avec un événement grand public. Rendez-vous samedi 15 juin de 11h à 19h au Hall en commun. On est dans le quartier Courrouze. C'est là où est notamment installée depuis le début de l'année la belle déchette qu'on retrouvera sur la programmation. Et on retrouvera en fait de nombreux partenaires mobilisés dans différents champs, que ce soit des partenaires associatifs, des entreprises. On dit un peu qui sera présent.
Oui, on peut dire. Alors du coup, sur cette journée du 15 juin, de nombreux partenaires vont être présents pour pouvoir distiller les informations tout au long de la journée. On commencera à 11h avec une papote bâti ancien et Thiès Bresse qui nous expliquera du coup quels sont les matériaux à utiliser dans le cadre d'une rénovation d'un bâti ancien. Ensuite, nous continuerons à 15h avec une causerie de la rénovation, où là, l'ALEC présentera quels sont les types de travaux à prioriser dans un projet de rénovation réussi. Et ensuite, on finira à 18h30 avec un Billy Quiz, donc c'est une animation ludique justement autour de la rénovation, pour essayer de déconstruire un peu les idées préconçues. Ensuite, tout au long de la journée, nous aurons un stand de Batilab, justement avec une animation vers les plus jeunes autour des métiers du bâtiment, pour donner envie de s'inscrire dans cette filière qui est pleine de ressources et d'aventures. Nous aurons également une démonstration de la série mobile. On parlait du bois tout à l'heure dans la construction. Ça passe aussi du coup par l'utilisation de machines qui respectent les forêts et qui permettent d'aller extraire le bois et de couper le bois d'œuvres de manière la plus appropriée possible. Donc il y aura une démonstration.
Ça, ce sera avec, entre autres, le collectif d'animation de l'espace public des animés qui arrive même à mettre des outils de genre entre les mains d'enfants. C'est leur, leur challenge.
C'est vraiment fou. Voilà. Et donc voilà, tout au long de la journée, la Belle Déchette aussi sera ouverte au public. Grabuge nous accueillera pour pouvoir prendre un petit verre, aussi manger un bout. Donc, faut pas hésiter à venir. Il y aura tout sur place et dans une ambiance très ludique et sympathique.
Grabuge qui assurera donc la restauration, la buvette et puis une animation musicale pour poursuivre la soirée et qui va surtout connaître un chantier de rénovation qui laissera place donc un futur café-restaurant dans ses halles en commun dans le quartier Courrouze. Le public va pouvoir participer.
Tout à fait, avec du coup un chantier participatif autour de la Terre Crue avec l'association Empreinte qui permettra aux participants de découvrir comment on malaxe la terre, comment on y associe la paille et comment on peut construire du coup avec ce qu'on considère bien souvent à tort comme un déchet, alors que la terre est la première matière au monde utilisée dans la construction.
La Terre Crue qui se dévoilera aussi sous forme d'exposition, cette fois avec Terre de Bâtisseuse, autre association qui est sur le territoire ?
Non, pas vraiment. En fait, Terre de Bâtisseuse, c'est une expo qui a été montée plutôt du côté de Grenoble, où on a un gros bassin actif de professionnels et de professionnels ES de la Terre Crue. Et c'est sorti du constat que très souvent, la place des femmes dans le bâtiment était invisibilisée. Et la chance qu'on a dans la filière Terre Crue, c'est que c'est une filière qui tend à se féminiser de plus en plus. On forme de plus en plus de femmes et il y a de plus en plus de femmes sur les chantiers. Et du coup, c'était de montrer qu'il était possible de faire du bâtiment aussi en étant une femme. Bien au contraire, c'est tout à fait accessible. Et c'est des portraits d'entrepreneuses, de bâtisseuses qui mettent en œuvre de la Terre Crue sur les chantiers en neuf et en rénovation. Je vous invite chaleureusement à venir voir cette exposition, c'est de très beaux portraits.
Tout ce qu'on a annoncé, c'est à voir donc samedi 15 juin de 11h à 19h au Halles en commun. On est dans le quartier Courrouze à Rennes. Pour le programme détaillé, le mieux c'est d'aller jeter un coup d'œil au site internet alec-rennes.org. Et c'est le moment où je vous représente Elisabeth Ribeiro donc pour cette agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes. Vous êtes responsable du pôle grand public et Johan Bois, vous êtes vous le co-président de la Fédération bretonne des filières biosourcées. On vous retrouvera donc samedi 15 juin au Halles en commun pour ce cinquième printemps de l'éco-construction. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Clothing. Will you look at that? chosen. Whoa, look at that. Nothing they can do to separate I and I from the love of our Father. You see blood is thicker than a water. Whoa, look at that. Got to survive in the ghetto.
Marley, Roots sur Canal B, c'était le choix musical de Johan Bois de la Fédération des filières biosourcées de Bretagne, un titre à retrouver sur cet album, Rebel Music, qui est sorti en 1986, l'un des nombreux disques de cette icône jamaïcaine qu'est Bob Marley, que vous venez d'entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale qui tente d'être réflexive et combative, sacré défi, c'est à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi sur canalb.fr, un site où vous retrouverez par ailleurs l'ensemble des podcasts des nombreuses émissions culturelles, musicales, mais pas que, animées en tout cas par des salariés et des bénévoles qui ont en commun d'être passionnés. Comme chaque jour, quand même avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre dans la région rennaise. Premier événement repéré pour vous aujourd'hui, c'est une rencontre avec les auteurs d'un livre, une histoire de la conquête spatiale, des fusées nazies aux astro-capitalistes du New Space. C'est sorti aux éditions La Fabrique cette année et signé des mains d'Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin. Ils seront tous les deux au Jeu de Paume jeudi 13 juin à 18h sur invitation de la librairie Planet.io. Dans le sillage des Space enthousiastes au sein des gouvernements et des armées, une puissante industrie s'est développée, surfant sur le marché des télécommunications et de la surveillance, spéculant sur les projets d'expansion cosmique les plus farfelus. Cet astrocapitalisme, il se caractérise aujourd'hui par une fuite en avant destructrice. Tandis que les puissances spatiales et les milliardaires du New Space visent la Lune et Mars, les débris et les pollutions s'accumulent au sol et dans le ciel. Si l'enchantement perdure, c'est qu'une vaste conquête des esprits est à l'œuvre, dont on verra que l'héroïsation des astronautes, hier intrépides aventuriers, aujourd'hui scientifiques éclairés, n'est qu'une dimension parmi les plus durables. Il existe pourtant d'autres usages de l'espace, ni guerriers ni marchands, plus contemplatifs et soutenables et qui offrent une voie alternative vers les étoiles. Ça a l'air passionnant. On prend ensuite un peu d'avance pour une deuxième recommandation. C'est un événement qui, à l'image des journées européennes du patrimoine et du matrimoine, attire toujours un public nombreux, donc il faut s'organiser. Et il s'agit des journées européennes de l'archéologie, pilotées par l'Institut National des Recherches Archéologiques sous l'égide du ministère de la Culture. Ça se passe partout en France, samedi 15 et dimanche 16 juin. Et en Ille-et-Vilaine, il se passera des choses du côté du musée des Beaux-Arts à Rennes, aux ruines du château de Saint-Aubin du Cormier, au mégalithe de Saint-Just ou encore à la tour Solidor du côté de Saint-Malo. Programme complet à retrouver en ligne sur journée-archéologie.fr. Et à Rennes, il y a surtout un site emblématique qui va ouvrir ses portes au public, celui d'une fouille qui est menée en ce moment à l'Hôtel Dieu. Un ancien quartier d'habitation du nord de la ville romaine de Condat y est étudié, en amont d'un projet d'aménagement. Pour éviter la foule, a priori le mieux, c'est de venir le plus tôt possible dans la journée. Je vous laisse avec un extrait d'interview qui a été réalisé par Louise, ma collègue, qui vous parlera un peu plus tard dans l'été des fouilles qui sont organisées dans la région. Ce sera à écouter dans l'émission De Boule Vanille au mois de juillet sur Canal B, évidemment.
Elle est au même endroit.
Elle est au même endroit. Elle est un peu modifiée parce que le mur est déplacé de quelques centimètres. Pourquoi ? On ne sait pas encore.
Alors l'enjeu de cette ouverture, c'est assez important et ça répond vraiment au fait qu'on soit un institut public et c'est une notion d'archéologie comme service public. Alors je suis Julien Boilev, je suis toicographologue à l'INRAP, donc c'est un mot un petit peu barbare pour un nom de spécialité, à savoir je suis spécialiste des peintures murales et des stucs d'époque romaine. On fouille, nous, pour la science, un patrimoine, mais ce patrimoine, on ne perd jamais de vue que c'est un patrimoine commun, qu'il appartient à tout le monde, c'est notre patrimoine à tous, aux Rennais et plus largement. Et donc il est important qu'on puisse faire un retour auprès de ce public et leur donner à voir les résultats de ces travaux. Alors évidemment, il y a des publications, il y a des expositions, mais le public est souvent très intéressé de voir aussi un petit peu les coulisses de l'archéologie et de pouvoir voir les sites, ce qui est compliqué au quotidien parce que ce sont des chantiers, il y a des notions de sécurité. Donc ces journées, elles permettent justement d'aller un peu ouvrir les portes de sites qui ne sont pas accessibles autrement. Et le public répond de manière fréquente avec beaucoup d'engouement sur ces visites. Donc là, l'enjeu, voilà, ça va être de leur montrer, avec toutes les difficultés de lecture qu'il y a, à la fois comment on travaille, mais aussi qu'est-ce qu'on trouve, et qu'ils puissent répondre à toutes les questions qu'ils auront à nous poser. Donc on invite le public à venir nombreux sur ces 3 jours visiter les chantiers.
La Renne, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.